Bonjour à nos auditeurs, vous écoutez une émission qui aura cours cet été sur Radio Arc-en-Ciel et qui s'appelle Baroque et classique dans la France du XVIIe. Alors on a tous une idée plus ou moins floue, en tout cas la mienne est très vague, de la question du baroque et du classique. On va essayer de déplier cette question, de l'éclairer en compagnie de notre invité qui sera donc l'invité central de toutes les émissions, Philippe Frétinier, chartrain, facteur de clavecin, donc le lien avec le baroque, là, on peut l'imaginer tout de suite, mais vous verrez que ça n'est pas si simple que ça, sans doute, et qui, depuis longtemps maintenant, a entamé un gros travail de recherche historique sur, justement, la question du baroque et du classique. Vous verrez que, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera très éclairant. Pour ceux qui connaissent, ça pourrait bousculer vos idées reçues sur ce qu'il est convenu d'appeler le baroque, qui est une notion qui peut-être n'est pas si simple que ça. Enfin, je ne veux pas anticiper, mais en tout cas, on reviendra largement, évidemment, là-dessus. Alors, pourquoi le 17e ? Parce que c'est la période où la question se pose. Et elle se pose de manière très ample, puisque si très souvent on associe le baroque à la musique et à l'architecture d'abord, en fait c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du champ culturel. Et quand je dis champ culturel, il ne s'agit pas seulement des arts, mais également des sciences. On verra d'ailleurs de quelle manière, sans doute en tout cas pour Philippe Frétinier, le primat revient peut-être à ce qui s'est passé dans le domaine de la science d'abord. Enfin, il y reviendra plus en détail. Alors, comme c'est un sujet un peu vaste, voire même un peu compliqué, on va passer d'abord un petit peu de temps pour définir un certain nombre de termes. Donc, on va faire un petit travail lexical, déjà. Et à la suite de ça, on fera aussi un petit travail méthodologique. Donc, ça sera un peu les premières émissions avant d'aborder très concrètement les domaines successivement de la littérature, de l'architecture et de la peinture. Vous voyez, la littérature, ça peut parfois surprendre puisqu'on n'envisage que très rarement la question du baroque et de la littérature. Alors pour commencer, Philippe Frétinier, peut-être, puisque là, en début d'émission, on a eu le jingle de l'émission, celui qu'on entendra à chacune des 9 émissions que nous allons faire ensemble, pourquoi cette musique d'introduction de cette émission ?
Alors j'ai choisi l'offrande musicale de Bach. Alors, première des raisons, c'est qu'évidemment, comme beaucoup d'autres, je suis un amoureux éperdu de Bach. Et parmi les nombreuses merveilles que Bach nous offre, c'est la richesse, l'inventivité et la beauté de ses thèmes. Et le thème de l'offrande musicale, c'est vraiment quelque chose d'absolument sublime. Je pourrais en dire autant d'ailleurs de l'art de la fugue, je pourrais en dire autant de beaucoup d'autres des thèmes de Bach, celui des Goldberg, voilà. Alors j'ai choisi celui de l'offrande musicale parce que c'est sans doute un de ceux qui m'émeut le plus. Et puis, il y a une espèce de petite histoire qui est probablement plutôt de l'ordre de la géographie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été composé par Bach à la suite de son séjour à la cour de Frédéric II, où il avait été invité, puisque Frédéric II se piquait de musique, il était un joueur tout à fait correct de flûte. Et donc, il a invité Bach, qu'il voulait rencontrer, dont il s'est servi aussi pour expertiser sa collection d'instruments, parce que Bach était aussi connu pour être un expert en instruments. Et petite parenthèse humoristique, comme quoi les grands hommes peuvent se tromper, le premier piano qu'on a présenté à Bach, qui ne devait pas être bien formidable, sans doute, Bach a déclaré que cet instrument n'avait aucun avenir. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est amusant. En tout cas, donc, on a beaucoup dit que c'était Frédéric II qui avait donné le thème de l'offrande musicale à Bach. Alors la vérité est probablement tout autre, mais enfin voilà, il y a cette petite anecdote en plus qui donne un petit peu de sel à l'histoire.
Bon, en tout cas, on va parler de la France au XVIIe, et là on n'est pas en France.
Comment ?
Là on n'est pas en France.
Là on n'est pas en France.
Voilà. Et le paradoxe, c'est que je vous fais parler de la musique, et finalement on va en parler très peu. Est-ce qu'on peut juste dire pourquoi ? En deux mots, on parlera finalement assez peu de musique baroque, alors que c'est ce que tout le monde retient, ce que tout le monde connaît ou croit connaître, en tout cas.
Oui, tout le monde connaît ça, parce qu'il y a eu, entre guillemets, un renouveau de la musique baroque dans les années 60-70, parce qu'au fil du temps, le lien direct avec la musique baroque s'était distendu dans la mesure où les instruments ayant évolué, la question du diapason ayant changé. D'abord, jusqu'au XXe siècle, on jouait essentiellement de la musique contemporaine. Je veux dire, à l'époque de Mozart, on jouait la musique de Mozart, et à l'époque de Beethoven, on jouait la musique de Beethoven, et ainsi de suite. Donc il y a eu une sorte de tradition qui un petit peu s'interrompait. Il y avait une sorte de rupture épistémologique même en musique, on reviendra sur le terme après. Et donc dans les années 60, il y a eu un courant, notamment avec des figures éminentes comme dans un premier temps Nicolaus Harnoncourt, je pense que tout le monde connaît maintenant ce musicien qui est mort il n'y a pas si longtemps, ou Gustave Leonhardt, mort aussi tout récemment. Et ils ont décidé de revenir aux textes. Donc un travail sur le texte, sur la précision du texte, parce qu'il y avait des éditions, les éditions musicales n'étaient pas toujours de la plus grande rigueur. Je précise par parenthèse, pour revenir dans un cadre français, que en France, il y a eu des pionniers même avant, puisque par exemple Debussy a été au sens anglais du terme l'éditeur de Rameau, une célèbre maison qui était place de la Madeleine qui s'appelait Durand. Il y a eu des grands musicologues français dans l'entre-deux-guerres, quelqu'un comme Marc Pincher, par exemple, qui déjà s'intéressait à la question de la musique baroque, mais c'était confidentiel à ce moment-là. Le vrai coup d'accélérateur, c'est Leonhardt et Harnoncourt. Et puis, dans un temps un peu plus récent, mais déjà lointain maintenant, Kenneth Gilbert au clavecin. Et donc, on a décidé de revenir à l'exactitude du texte. On s'est posé la question de comment l'aborder, en s'intéressant aux textes de l'époque, aux traités, à ce que les musiciens avaient pu écrire, et puis aussi à la question des instruments. Parce que, par exemple, Bach, eh ben, la musique de clavier de Bach, on la joue au piano. Or, il se trouve que moi, je ne fais partie d'aucune ligue d'interdiction, donc on peut très bien jouer Bach au piano, très bien, mais quand même, ça pose un problème par rapport au texte, et notamment même d'un problème technique, parce que le clavier du piano, surtout le piano contemporain, est extrêmement lourd. C'est la pression sur une touche d'un piano moderne, c'est plus de 10 fois la pression qu'il faut exercer sur la touche d'un clavecin. Donc, par exemple, la question de l'ornementation, évidemment, c'est un problème. Quand on joue de la musique comme celle de Scarlatti, ça devient. Il y a des grands pianistes, comme par exemple Horowitz, qui ont joué Scarlatti au piano, mais dans de très belles interprétations par ailleurs. Mais quand même, il y a un problème de moyens et de fidélité au texte. Donc, ce renouveau de la musique baroque s'est attaché à se doter de tous les moyens. D'un retour au texte à la fois dans l'appréhension textuelle mais aussi dans les moyens utilisés. Ce qui ne veut pas dire que c'est un retour complètement littéral parce qu'il n'y avait pas de magnétophone, on ne sait pas. Bon, voilà, on essaie simplement de se doter de tous les moyens dont ils disposaient eux pour jouer cette musique. Ce qui ne veut pas dire qu'on la joue exactement comme forcément eux la jouaient. Voilà, je ferme la parenthèse.
En tout cas, finalement, on en entendra de la musique, mais on en parlera peu, puisque notamment...
Oui, alors le fait que je parle peu de la musique, c'est que les débats...
Je précise que vous êtes musicien, amateur oui. Certes, mais professionnel de oui. La facture de clavecin, donc oui. C'est un paradoxe quand même.
Non, parce que finalement, quand on regarde tous les nombreux traités de théorisation... d'histoire, de théorie, de réflexion sur les arts, et Dieu sait s'il y en a eu, on y reviendra au fil des émissions. Dans la musique, il y a des traités théoriques, mais qui concernent vraiment la problématique de l'écriture de la musique, mais de la théorie sur ce que doit être l'art dans la musique, pas tant que ça finalement, c'est pas le lieu où ça s'est le plus développé. Bon, il y a évidemment, il y a, par exemple, Monteverdi voulait écrire un traité que finalement il n'a pas rédigé. Alors, je cite Monteverdi parce que c'est vraiment le point de départ. Il y a plusieurs approches au baroque, et il y en a une, entre autres, une des lectures possibles, c'est une lecture chronologique. Et donc dans la musique, la chronologie du baroque, en gros, c'est de Carissimi, Monteverdi à Jean-Sébastien Bach qui clôt la période, ce qui pose aussi des problèmes, pas tellement en musique, mais dans d'autres domaines, des problèmes d'épistémologie, la question des limites, qu'est-ce que c'est qu'une ère quand,
oui.
quand...
Parce qu'au fond, finalement, c'est ce que vous dites à propos de l'exemple musical, qui est certainement celui qui vous a amené, vous, à étudier plus précisément la question du baroque et du classique. Mais le paradoxe, c'est que le baroque en musique, finalement, ne désigne qu'une période. Pas tellement, en tout cas, d'après... pas tellement une forme musicale, pas spécifiquement...
Pas plus que ça. Enfin, il y a deux caractéristiques, parce que, Monteverdi va parler de la seconda pratica qu'il veut... développé par opposition à la prima pratica, ce qu'on pourrait formuler autrement en disant l'ancien style et le nouveau style, car Rossini va introduire l'idée que l'écriture musicale doit suivre les paroles de la, quand il s'agit de musique vocale. Mais il y a une continuité de Monteverdi à Jean-Sébastien Bach, en plus du continuum temporel, il y a un continuum technique qui est l'utilisation de la basse continue, donc l'accompagnement, et de l'ornementation. Hein, qui va d'ailleurs évoluer, puisque au départ, par exemple dans la musique française du XVIIe, l'ornementation est très peu figurée sur la partition, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la jouer. Dans la musique du XVIIe, il n'y a même pas de barre de mesure. Par exemple, au clavecin, il y a ce qu'on appelle des préludes non mesurés, et ça n'est écrit qu'en ronde. Donc c'est au musicien de savoir la durée de chaque note, les barres de mesure, ainsi de suite. Et puis on va s'apercevoir... que ça pose quand même des problèmes même aux musiciens de l'époque. D'ailleurs, Couperin va en parler dans une de ses préfaces. Et il va expliquer qu'il note les ornements parce que il veut être sûr qu'on joue sa musique comme il l'a conçue. Hein. Donc, au départ, la notation est très peu portée sur la partition. Et puis, petit à petit, elle va être de plus en plus explicitée. Donc, il y a cette évolution-là. Mais on est quand même dans un continuum. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de traités en musique. Il ne faut pas entendre ce que je ne dis pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de traités en musique, mais qui sont vraiment de pure technique. C'est-à-dire que ça n'est pas tant de la réflexion théorique. Alors, il y a l'exemple de Rameau. Mais Rameau, on est déjà plus, d'une certaine façon, à l'époque baroque. On va revenir sur la question du temps, de la temporalité du baroque.
Alors, on va écouter justement un intermède musical de musique dite baroque. Et on reviendra sur la question juste après.
Oh.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission baroque et classique dans la France du XVIIe siècle, avec Philippe Frétinier. Alors nous venons justement d'écouter un morceau de Monteverdi, mais passons peut-être maintenant à ce qui a été l'un des éléments sans doute déterminants dans votre démarche autour de la question du baroque et du classique. Je parlais par là d'un chant qu'on n'évoque jamais, en tout cas extrêmement rarement, sur ce plan-là, c'est le domaine de la science. Parce qu'au XVIIe siècle, notamment en France, pas seulement, mais notamment en France, la science va connaître des développements inédits.
Je pense qu'il faut peut-être définir un certain nombre de choses avant de rentrer dans le vif du sujet, notamment celui de la science. Mais pourquoi la science est fondamentale ? Parce que c'est là que s'opère véritablement la révolution épistémologique au XVIIe siècle qui va finalement gagner tous les champs de la culture.
Alors parlons de ça justement, la révolution épistémologique. Qu'est-ce que vous entendez précisément par là ?
On peut même parler de rupture épistémologique. Il faut préciser déjà, sans doute la plupart le savent, mais pour les autres auditeurs, ce que c'est que l'épistémologie, parce qu'il ne faut pas confondre l'épistémologie avec l'histoire des sciences. L'épistémologie, c'est quelque chose qui consiste à aborder la démarche scientifique, les conditions de production de la science, son élaboration et la validation de la démarche scientifique. C'est ça l'épistémologie. Et donc, cette rupture se produit à cause notamment de découvertes scientifiques et surtout du rapport à la science qui change complètement. Je vais donner un exemple, à contrario, avec ce qui se passe au siècle précédent, au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le centre du monde se déplace, ce qui n'est pas rien, puisque le centre du monde, avec Copernic, ce n'est plus la Terre, mais c'est le Soleil. Et pourtant, ça n'a pas l'effet de révolution scientifique que ça pourrait paraître. Ça va poser un énorme problème idéologique et notamment religieux, ce qui conduira ensuite, mais là on est au XVIIe déjà, au fameux procès de Galilée. Et pour bien voir parce que jusqu'au XVIe siècle, au fond, on est toujours sur la lancée de l'Antiquité. Alors il va falloir revenir au rapport à l'Antiquité parce qu'il est très important aussi au XVIIe, mais là aussi il y a un basculement. Jusqu'au XVIe siècle, on est vraiment dans une filiation directe avec, finalement, le système aristotélicien dans tous les domaines, que ce soit la rhétorique, la science. Et donc, on reste, malgré ce déplacement du centre du monde, on reste aristotélicien dans la façon d'aborder la science.
C'est-à-dire, c'est aristotélicien.
C'est-à-dire que dans la science aristotélicienne, on ne s'intéresse pas à la cause des phénomènes, mais à leurs conséquences. Alors que, je vais y revenir après à propos de Galilée et Descartes, au XVIIe, on va au contraire s'intéresser aux conséquences du phénomène, essentiellement.
Aux causes du phénomène.
Aux causes du phénomène, oui. Mais aussi à ses conséquences. Donc c'est un véritable renversement. Et ce renversement va notamment avoir lieu parce que aussi bien Galilée que Descartes se rendent compte que la logique, c'est notamment Galilée qui va toucher ça du doigt le premier, la logique ne permet pas le processus de découverte scientifique auquel il aspire. Parce que justement, le système aristotélicien est un système de logique, c'est-à-dire qu'on enchaîne logiquement les propositions. Et Galilée se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce que la grande innovation en matière de science de Galilée et de Descartes, c'est aussi que la science et la technique avancent de pair. C'est pas anodin dans le cas de Galilée, puisque tout le monde connaît l'histoire où il a inventé une lunette, quand il était professeur à Padoue, et il allait à l'arsenal de Venise et il a fabriqué sa fameuse lunette qui lui a permis après de faire les observations des satellites de Mars, qui lui ont fait comprendre et développer le système copernicien. Et Le procès de Galilée, d'ailleurs, auquel on attribue une phrase, alors je ne sais pas si... j'ai pas lu... je ne suis pas un historien qui a étudié les textes du procès de Galilée, mais on attribue cette fameuse phrase pendant le procès de Galilée, où on le questionne, et à un moment, il répond, mais je ne concurrence pas les théologiens. Enfin, ça, c'est moi qui ajoute pour ce que l'auditeur comprenne. C'est la suite qui est importante. Vous vous dites comment on va au ciel, et moi, je dis comment va le ciel. Et ça, c'est la fondation de la science moderne, au fond. Hein. Donc, le lien entre science et technique est d'autant plus important que c'est aussi par des biais techniques que cette nouvelle science apparaît, c'est-à-dire une science qui va conduire à la mathématisation de l'univers, parce qu'aussi bien Galilée que Descartes, tous les deux s'intéressent aussi à des phénomènes mécaniques, on pourrait dire. Galilée s'intéresse beaucoup à la question de la trajectoire des projectiles, et Descartes est assez célèbre pour ça, s'intéresse beaucoup aux questions de l'optique. Et Galilée comprend que la trajectoire, c'est une suite de points dans l'espace, et que seules les mathématiques vont pouvoir rendre compte de cette série de points. Donc il se rend compte qu'en fait, c'est les équations qui vont permettre de construire la trajectoire. Et pour ce qui concerne Descartes, c'est exactement pareil. Et du coup, en ce faisant, Galilée va pouvoir rendre compte de la trajectoire des projectiles, et donc, par exemple, dans l'artillerie, ça va servir à orienter les tirs. Et dans le cas de Descartes, ça va servir à la taille des verres. Hein? Parce qu'on va découvrir, alors je ne vais pas rentrer dans des choses mathématiques trop compliquées, mais c'est vraiment des choses très importantes au début du XVIIe, parce qu'il y a plein de révolutions mathématiques au XVIIe, il y en a au début et à la fin. Alors celles du début sont les plus importantes, puisqu'elles constituent vraiment cette rupture épistémologique, c'est-à-dire cette mathématisation du monde. On passe d'un système d'enchaînement, de raisonnement logique, quasi à la limite du syllogisme, à une mathématisation du monde, on change complètement le regard du monde.
Oui, c'est ça, le changement complet dans le regard du monde qui se produit au XVIIe, et on verra après de quelle manière, effectivement, on peut le lier à la question baroque et classique, mais c'est bien cette révolution-là qui fait qu'en fait, le monde n'est plus le même, le réel auquel on se coltine n'est plus du tout identique à celui qu'on avait précédemment. Et c'est finalement un changement, un bouleversement assez rapide.
Radical.
Donc
radical.
À ce point rapide qu'on peut parler d'une rupture.
Voilà. Donc on découvre, on se met à la trajectoire des projectiles, mais ça, on retrouve la question des courbes aussi dans la question des verres, de l'optique et de la taille des verres. Et donc ça implique donc la question des courbes, la mathématisation des courbes et la question des tangentes. Et de fil en aiguille, on va d'ailleurs finalement se poser des questions sur l'infini. Il y a un ouvrage célèbre d'histoire des sciences hein, qui résume bien les choses, rien que le titre, qui est un classique maintenant d'histoire des sciences, d'Alexandre Coré, du monde clos à l'univers infini. Hein. Et cette question de l'infini va être très perturbatrice, notamment sur le plan théologique. Alors il y a une autre révolution qui intervient très rapidement, c'est la troisième loi de Kepler, qui est la découverte que finalement la trajectoire, les orbites, ce sont des ellipses. Et donc du coup, une ellipse, contrairement au cercle qui a un centre, une ellipse c'est quelque chose qui a deux centres. Donc il y a un décentrement du monde. Et ce décentrement, on va le sentir dans tous les domaines.
Y compris donc dans les domaines artistiques.
Oui, dans le domaine théologique aussi, dans le domaine religieux. Et puis, par exemple, il n'est pas anodin de remarquer que c'est comme par hasard le moment d'un renouveau de l'utilisation de la rhétorique. Et d'un renouveau de la rhétorique, c'est pas une nouveauté, parce que depuis l'Antiquité, il y a des filiations directes avec l'Antiquité. Alors il y a une première petite révolution rhétorique qui est celle d'Érasme dans l'Éloge de la folie, où par son utilisation de l'ironie, ça va être un grand siècle de l'utilisation de la rhétorique. Et la rhétorique, qu'est-ce que c'est d'autre que finalement un décentrement du langage, enfin c'est entre autres un décentrement du langage par l'utilisation par exemple des métaphores, des métonymies,
bon, des phrases à double sens, etc.
Voilà. Oui. Donc voilà, et à partir du moment où il y a ce double discours, c'est aussi finalement l'émergence d'un monde caché, comme l'ouvrage de Louis Marin, le Dieu caché. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, s'il y a plusieurs centres au monde, d'une certaine façon, c'est comme si Dieu se retirait du monde, quoi. Il est plus visible. Parce que le centre du monde, que ce soit le soleil ou la terre, d'une certaine façon, ça rend visible la présence de Dieu.
Hein? C'est une belle façon de terminer cette première émission. Je pense qu'on va reprendre là-dessus. La prochaine fois, et on va se quitter en musique, Philippe Frétinier, avec Couperin.
Avec une pièce du quatrième livre, François Couperin, fin 17e, début 18e, a écrit 4 livres de pièces de clavecin. Et donc là, c'est une pièce du quatrième livre qui s'appelle Les Grâces Naturelles.
Merci, et à la semaine prochaine.